Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, vous êtes sur Divergence FM. Effectivement, c'est l'émission hebdomadaire de cinéma. Nous sommes le mercredi 22 février. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour à notre invitée Christine Bolliger-Hérard.
Bonjour.
Vous êtes la directrice artistique des 5e semaines de cinéma suisse et pas du cinéma suisse.
Oui.
Et voilà, et on parlera avec vous, et bien forcément, de cette manifestation qui va débuter ce samedi. Et...
Vendredi.
Ben voilà, ça commence bien. Marine, toi, de quoi vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler de Gogo Tales, qui est le nouveau film de Abel Ferrara. Donc ça sera l'occasion un peu de revenir sur sa carrière, qui n'a pas été sans déboires, qui a connu des hauts et des bas. Et je vous ferai la suite de ma chronique DVD que j'avais commencée la semaine dernière, sur la sortie de février.
On avait dû amputer un peu l'émission parce qu'on avait été plutôt bavard. Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Devil Inside, le dernier film de Frousse, sorti alors en avant-première hier. Et ce sera l'occasion de jouer un blind test encore avec eh bien, des films qui font apparaître le mot diable dans leur titre. Voilà, c'est extrêmement précis. Et puis, je vous parlerai aussi de Dos au mur, thriller qui est sorti la semaine dernière. Mais on va débuter avec La mer à boire.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Le drame social est dans l'air du temps, pour preuve la sortie en 2011 de De bon matin de Jean-Marc Moutou, ou comment un cadre de banque pète les plombs suite à sa mise au placard. Il y a eu aussi Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian, ou encore dans le registre du film noir Dans la tourmente de Christophe Ruggia, sorti en janvier, avec deux hommes mis à la porte sans ménagement qui vont tenter de voler le magot fruit d'un odieux pot de vin acquis sur le dos des travailleurs. Jacques Maillot, à qui l'on doit Les liens du sang, qui mettait en scène le duo de frères Guillaume Canet, le flic, et François Cluzet, le voyou, s'attache cette fois-ci au patron d'une entreprise de chantier naval dans la mer à boire. Alors d'emblée, on n'est pas du côté du prolétariat, mais du côté du patronat, même si Maillot nous laissera entrevoir le contre-champ en esquissant des personnages secondaires. Alors bien sûr, notre patron est attachant, ses salariés ont l'air d'être satisfaits de lui, de leurs conditions de travail. Il passe beaucoup de temps dans son entreprise et fait tout pour la sauver alors qu'il pourrait tranquillement tout revendre au plus offrant. De plus, Georges, interprété par Daniel Auteuil, est veuf, ce qui le rend, on a envie de dire, encore plus sympathique et méritant. Alors si dès le début, on voit que tout va bien, eh bien très vite, ça déraille. La banque, à la manière d'un actionnaire bien content de se goinfrer, demande à Georges de réaliser de meilleurs bénéfices pour pouvoir mieux rembourser ses crédits.
Les investissements vous ont considérablement endetté, votre masse salariale est très conséquente, du coup votre marge est insuffisante.
C'est une affaire saine, en 30 ans d'existence...
Le passé, c'est le présent qui nous intéresse. Vous possédez une marque prestigieuse ? Mais vous vous surestimez. Une ou deux défections dans votre carnet de commandes et vous vous retrouverez vite dans une situation très compliquée.
Évidemment, si vous me coupez les vivres, même pas besoin de défection.
Je vous le répète, toutes les études récentes sont défavorables au secteur du nautisme. Consultez-les.
Mais bordel, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez me le dire?
Je peux vous accorder un délai. On avait dit 2 mois, je vous en laisse un de plus.
1 mois, qu'est-ce que ça change? Que dalle! Vous êtes vraiment une belle bande de salauds. Ça change rien, 1 mois.
Je ne peux pas faire mieux.
Le parti pris du film est donc bien de placer le patron et ses ouvriers dont il est le capitaine sur la même barque et les faire ramer contre le monde de la finance. Et ça ne sera pas simple. Georges va devoir sacrifier aux injonctions de ses financeurs et se mettre à dos ses salariés qui, de piquets de grève en manifestation, vont faire ce qu'ils peuvent pour lui mener la vie dure. Saccage de l'outil de travail, négociations musclées, tensions entre les équipes qui font partie du plan social et puis les autres qui restent. Pour le coup, tout cela est bien rendu et vraisemblable. C'est la partie la plus documentée et le volet social du film.
Je crois que vous avez de bonnes nouvelles pour Monsieur Pierret.
Oui, nous avons reconsidéré notre position. En conséquence, nous sommes disposés à renouveler notre crédit à la Société des Chantiers Pierret. Mais nous avons certaines conditions.
Venez-en au fait, qu'est-ce que vous voulez?
La condition à laquelle nous sommes disposés à vous soutenir est que vous procédiez à une restructuration. Le bâtiment vous coûte une fortune et je ne parle pas de la masse salariale.
En gros, vous voulez que je mette la moitié de mon personnel à la porte? Mais je peux pas faire ça, c'est impossible.
Vous trompez, vous pouvez. C'est même la seule chose à faire.
Tu ne voulais peut-être jamais dire, mais je trouve que vous faites du très très bon boulot.
Alors champagne.
C'est quoi qu'on arrose? Nos indemnités à 2 balles?
Faut tenir le coup, il va s'en sortir. Tu vas voir, ça va aller.
Toi, tu penses toujours que tout va s'arranger.
Vous possédez une marque prestigieuse, mais vous vous surestimez.
Je n'ai pas l'intention de baisser les bras. On n'a pas perdu. Ces enfoirés me mettent le couteau sous la gorge.
Elle me rapporte que dalle, ta boîte. Bazar de là.
Je suis pas d'accord, plutôt crever.
Cette affaire continue. Pour Pierret, on est prêt à vendre nos actions.
Ma proposition tient toujours. Je suis prêt à vous racheter vos parts.
On n'est pas à vendre. Vous êtes vraiment une belle bande de salauds.
Vous pouvez refaire les additions dans tous les sens. On ne pourra pas payer la prochaine échéance de l'emprunt pour l'atelier.
Si vous ne trouvez pas une solution, moi je vous fais la peau.
Des mauvais espaces, on connaît tout ça. Faut tenir le coup.
Tenir le coup, c'est bien l'expression. Alors Georges va faire tout ce qu'il peut pour redresser la barre malgré l'adversité. Alors si on était resté que sur ce portrait d'un entrepreneur veuf qui voit sa femme errer dans l'usine la nuit ou au bord de sa piscine, la mer à boire aurait été bien léger. Comme cet homme est veuf, eh bien ses tracas professionnels ne peuvent déteindre sur son histoire conjugale au point zéro. Donc Jacques Maillot va donc s'encombrer de personnages secondaires dont il se débarrasse assez vite. Et ça c'est bien dommage, notamment un jeune ouvrier divorcé qui découvre l'amour comme on s'enrhume avec la petite nouvelle de l'atelier, et qui, à la faveur du plan social, va se retrouver sur la touche et tout saccager dans un élan autodestructeur. Ça manque un peu de finesse, et rien que ce personnage-là aurait pu avoir les faveurs d'un film des frères Dardenne, un peu plus habitué au drame social. Le scénario lâche un peu prise avec la description sociale quand notre Georges va en Russie à la recherche d'un éventuel financier. Alors on sait que les Russes achètent une partie de la Côte d'Azur et que là-bas, eh bien, il sympathise avec son interprète. Et Georges n'a peut-être besoin que de ça pour retrouver le peps, une histoire d'amour. Alors idéal ou contrarié, cette histoire nous est servie comme un cadeau surprise qui peut laisser dubitatif. La mer à boire ne remplacera pas le Ressources humaines de Laurent Cantet ou Violence des échanges en milieu tempéré de Jean-Marc Moutou, deux excellents films qui datent déjà mais et qui n'avaient pas donc un grand acteur tristouné à l'écran, mais dont le thème et l'intrigue étaient bien plus révélateurs sur notre situation sociale et économique et son retentissement sur les hommes et femmes que ne peut l'être La mer à boire, qui est projetée au Gaumont, au CGR.
Cinérama sur Divergence FM.
Christine Bolliger est rare, donc vous êtes présente dans les studios de Divergence FM, Cinérama, pour la 5e semaine de Cinéma Suisse. Donc 5e semaine, donc ça veut dire que ça a forcément commencé il y a 5 ans, et là ça va se dérouler du 24 au 28 février, alors essentiellement au Centre Rabelais, et puis une projection au Diagonal Capitole. Alors la première question c'est de savoir un peu comment ça a commencé, hein, cette idée de proposer des projections de longs métrages suisses. Est-ce qu'il y avait une méconnaissance finalement des spectateurs français du cinéma suisse ?
Oui, quand je suis arrivée à Montpellier en 2004, j'ai rapidement côtoyé des cinéphiles et qui me disaient « Ah, le cinéma suisse, on connaît !» Et ils me citaient Godard, Tanner, Goretta. Et quand je leur demandais « Mais oui, la nouvelle génération, donc ceux qui font des films maintenant », on me répondait souvent « Ah bon, parce que le cinéma suisse, ça existe !» Voilà, donc c'était une idée un peu spontanée au départ, mais aussi forcément liée à ma passion, à l'envie de faire quelque chose. C'est parti un peu spontanément et on en est déjà effectivement à la 5e édition.
Alors ça veut dire que le cinéma suisse n'est pas forcément distribué en France, c'est plutôt un cinéma qui va dans les festivals avant tout.
Alors c'est un festival qui va dans les festivals, effectivement, il gagne beaucoup de prix dans les grands festivals aussi, mais il arrive cependant que des films suisses soient distribués en France, aussi à Montpellier, mais souvent sous l'égide d'un film français, d'un film luxembourgeois, comme La Petite Chambre par exemple, ou bien Jeux d'été, qui est actuellement au cinéma Diagonal, comme film italien.
Alors ben justement, on va écouter la Petite Chambre qui est sortie en 2010, me
oui,
semble-t-il.
C'est ça.
Voilà, avec Michel Bouquet, il y avait Eric Caravaca
et Florence Loire Caille.
Pourquoi tu pars aux États-Unis ?
On va pas recommencer.
J'essaierai de mourir au mois d'août. Comme ça, tu pourras venir à mon enterrement.
Bonjour, monsieur Berthoud.
Madame l'infirmière, ça va durer longtemps.
Vous êtes pressé ?
passé de voir partir une infirmière.
Elle ne sert à rien, cette pièce.
Mais arrête!
Ça sert à personne. Tout ça, ça sert à personne.
Mais arrête, t'es fou!
Un thé, s'il vous plaît.
De whisky.
Elle ne bougeait plus.
Est-ce que vous prenez le temps de manger avec lui?
Mais qu'est-ce que vous croyez?
Comment ça, il se nourrit pas? Non, il a perdu l'appétit depuis que son fils fait tout pour se débarrasser de lui.
T'es sûr que c'est une lampe?
Non, c'est une friteuse. Non, je ne lâche pas.
La petite chambre, hein, qui sera le deuxième long métrage projeté durant cette semaine de cinéma suisse. Ce sera au Centre Rabelais à 17h30 ce samedi 25 février. En revanche, vous allez débuter avec Impasse du désir de Michel Rod. Et là, pour le coup, eh bien, c'est une exclusivité. Voilà, c'est un film avec Natacha Régnier et Laurent Lucas quand même. Voilà,
oui, donc, voilà, deux tout acteurs. À fait. Et c'est donc le réalisateur sera là, sur place. C'est effectivement un film qui n'est pas distribué. C'est dommage parce qu'il est vraiment très bien. Il est très, très bien construit. Et c'est l'histoire donc, d'un psychiatre qui apprend que sa jeune femme le trompe et qui va manipuler un de ses patients pour faire taire sa souffrance.
Alors, ben, en même temps, ça veut dire que ce n'est pas terminé. Hein. Si les films passent dans les festivals, au bout d'un moment, il y a toujours le moyen qu'ils soient distribués dans les salles ensuite. Surtout s'il y a un succès public, on est d'accord.
On est d'accord.
Bon, donc on invite les auditeurs à aller voir Impasse du désir. Ce sera ce vendredi et c'est à 20h30 lors de l'inauguration des semaines de cinéma suisse. Voilà. Alors, on va décliner un peu ce programme. Ensuite, c'est le samedi à 20h30, la soirée est consacrée à 180 degrés. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors là aussi, c'est l'histoire, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un employé qui pète un câble. Et le réalisateur a eu l'intelligence et la finesse de transposer tout le drame, l'aspect dramatique, tout le travail de deuil, en fait, sur les autres personnages. Et c'est en même temps un film qui est porté par l'espoir, par l'amour, et surtout par une très, très belle musique jouée par l'orchestre de la ville de Zurich. Donc, avise aux amateurs de musique et de musique classique.
Alors, on peut, bien à l'occasion de ce film, parler de la langue de ces films que vous proposez, parce que la Suisse, eh bien, c'est multilangue, on va dire. Hein. Il y a une partie française, une partie où on parle allemand et une autre partie où on parle italien. Hein. Voilà. Plus les patois. Hein, c'est
voilà,
ça.
Exactement. Et ce film, en plus, il y a une partie qui est parlée en turc. Hein. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans la cinématographie suisse, c'est qu'en fait, il fait souvent le lien avec d'autres régions, d'une région à l'autre de Suisse, mais aussi il va à l'étranger. Une fois, il y avait un film qui partait en Russie ou il part en Italie. Donc, c'est vraiment très international.
Alors ce film 180 degrés de Sian Inan, c'est comme ça qu'on dit,
oui,
a remporté le prix du cinéma suisse 2011 pour le meilleur rôle secondaire. Alors prix du cinéma suisse, ça veut dire qu'il y a une compétition forcément du cinéma,
oui,
suisse.
Voilà.
Mais il y a combien de longs métrages suisses finalement qui sortent
par
an?
Alors je ne peux pas vous dire exactement combien de longs métrages, mais on dit qu'en tout, donc avec les documentaires, les courts-métrages, les films d'animation, il y a environ 60 à 80 films qui sont produits par année en Suisse.
Donc voilà, ça c'était la soirée du samedi. Ensuite, encore un prix du cinéma suisse, mais cette fois-ci vous allez du côté du documentaire avec, je vais vous laisser le prononcer ce nom. Parce que moi,
ça s'appelle Heimatklänge, qui signifie donc les sons de la patrie. Et donc c'est sur le chant typiquement suisse, le fameux yodel, mais en même temps il s'interroge sur l'influence de l'environnement sur le chant diphonique. Et donc ils ont même une partie où ils partent dans d'autres pays à la recherche de ces sons justement.
Alors on va peut-être parler, il y a un autre documentaire?
Oui, il y a
deux autres documentaires, on va peut-être en parler tout de suite, si vous voulez bien.
D'accord, donc nous avons aussi La Forteresse qui lui traite d'un sujet aussi actuel en Suisse, donc de l'immigration, les réfugiés. Et donc l'équipe de tournage a pu rester dans ce centre et voir comment vivent les réfugiés, comment vit aussi l'équipe qui les entoure et après jusqu'au moment où la décision est prise, s'ils peuvent rester ou non en Suisse.
Maintenant, nous allons prier pour ce centre.
Yes.
Nous allons demander à Dieu
yes.
d'établir.
ça. Que Dieu puisse respirer l'hospitalité. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.
Voilà, donc une petite ambiance hein, de ce film, donc La Forteresse. Documentaire et le second documentaire, enfin le dernier documentaire de
notre sélection. Oui. Alors nous avons aussi Cœur au ventre qui lui a film, la réalisatrice a film, suivi, on va dire, trois jeunes mères sur presque 4 ans et dès le moment où elles prennent la décision volontaire de garder leur enfant, qu'elles aient 15 ans, 16 ans ou 17 ans, et de voir un petit peu comment elles s'en sortent avec leur bébé, si le compagnon est présent ou pas, enfin comment s'organise leur structure familiale.
Alors est-ce qu'il y a, par exemple pour ces documentaires, est-ce qu'il y a une patte suisse ? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent plus souvent dans les documentaires suisses, ce qui ne reviendrait dans les documentaires français ?
Alors, je dirais que les documentaires comme les fictions hein, abordent tous les sujets en Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est des sujets typiquement suisses, mais en fait, en même temps, les interrogations peuvent être très françaises aussi et très internationales. Par exemple, là, nous allons avoir pour Cœur au ventre une discussion avec le planning familial de Montpellier. Et vous verrez que c'est très intéressant de voir le même sujet, mais traité quand même un petit peu différemment selon le lieu où il se situe.
Parce que l'intérêt aussi hein, de ces semaines de cinéma suisse, c'est qu'il y a la projection du film. Alors soit il y a le réalisateur qui est invité dans le meilleur des cas, hein, ce sera le cas ce vendredi, et, ou sinon il y a effectivement un débat ensuite hein, que vous proposez autour de la thématique du film. Hein.
Voilà, donc je présente chaque film et effectivement un échange est proposé à l'issue de chaque projection.
Alors bien, on va en terminer avec ce programme qui est... petit, mais finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites une bonne sélection.
Voilà, on dit peu, mais bien.
Peu, mais bien, voilà. Alors, on va parler eh bien, de la soirée du dimanche, ce sera encore au Centre Rabelais, c'est Oltre il Confine, c'est ça ?
Oui, voilà. Donc ça, c'est un film qui parle en fait de la guerre aussi, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la guerre des Balkans, bon, qui n'est plus d'actualité heureusement, et qui essaie de retracer un peu l'influence de ces guerres sur les générations qui suivent.
Et puis, eh bien, on continue, donc on a déjà parlé de Cœur au ventre, hein, ce sera le lundi 27, alors en journée à 14h30. Et puis ensuite, il y a Station Spiraten.
Voilà, donc les pirates de la station.
Le lundi 27.
La station d'un hôpital où c'est des jeunes qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont le cancer. Et donc, ça, c'est un film de fiction. Et même si c'est un sujet un petit peu plus conséquent, on va dire, mais c'est traité avec beaucoup d'humour, beaucoup d'espoir aussi. Et c'est intéressant de voir ces jeunes, ben, comment finalement ils se dépatouillent avec cette situation.
Et encore à 20h30, alors là c'était à 17h30 ce film-là, et puis à 20h30, donc une soirée, l'autre moitié de Rolando Colla. Et ça c'est au Centre Rabelais encore. Hein.
Voilà, exactement. Donc ça c'est le film, c'est, d'une part ça relie la problématique de l'étranger, de l'immigration aussi, mais ce sont deux frères qui ne se sont plus vus pendant plus de 30 ans, et donc c'est aussi comment peut-on se retrouver ou pas après une aussi longue absence.
Et puis, ben, je crois qu'on arrive à la fin. C'est le mardi 28 février à 19h50. Et ça oui. Se termine ben, plutôt bien, au diagonal, avec voilà. Un réalisateur qui sera présent. Hein.
Voilà, tout à fait. Et donc là, c'est aussi un film qui est récent, qui était d'ailleurs retenu pour la nomination aux Oscars, qui n'a pas été retenu en fin de compte. Mais donc, c'est vraiment aussi un film de très belle qualité. C'est l'histoire de familles qui passent leur été sur un camping. Et donc là aussi, les parents sont déchirés, les enfants sont déchirés. Et comment peut-on se retrouver finalement en tant qu'enfant dans cette situation avec d'autres enfants dans la même situation ?
Donc là, on entendra, j'imagine, un petit accent italien hein, pour ce oui. film. Voilà. Jeu d'été, donc, qui a manqué les Oscars, mais vous savez bien que de toute façon, c'est The Artist qui va gagner. Donc,
Voilà.
Bon.
Et on l'accepte.
Donc, 5e semaine de cinéma suisse. C'est à Montpellier, c'est du 24 au 28 février. Alors, c'est essentiellement au Centre Rabelais, sauf cette dernière soirée, jeu d'été, qui sera au Diagonal, donc à un tarif habituel du Diagonal. Et on précise qu'au Centre Rabelais, eh bien, on peut rentrer, l'entrée est libre. Hein.
Voilà, absolument. Et qu'on propose une collecte, parce qu'un festival engendre quand même des frais. Et donc, si on a envie de nous soutenir, on peut le faire par ce billet-là.
En tout cas, merci Christine Bolliger. Vous pouvez rester avec nous. On va parler d'Abel Ferrara. On va parler aussi de Devil Inside.
On va faire un blind test tous ensemble.
Et de d'autres films.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et donc on poursuit avec Go-Go Tales, autrement dit Histoire de Go-Go Danseuse, qui est le 17e film de Abel Ferrara, dans un genre qu'il a souhaité en contraste avec sa filmographie jusqu'à présent sombre et violente. C'est Willem Dafoe qui prête ses traits au personnage principal, patron altruiste d'une boîte de striptease, bien évidemment new-yorkaise. Criblé de dettes, mais accro au loto, il tente de maintenir à flot son club. Il est assez visible que Ferrara, dont la carrière s'essouffle depuis 10 ans, porte avec ce film un regard sur sa propre relation à l'industrie cinématographique et à l'art lui-même. Ray, le patron, a une vision trop utopique de son cabaret, qu'il imagine chic et élitiste, et se voit lui-même comme un découvreur de talent alors que son club périclite, déserté par les clients et bientôt par les filles, qui menacent de faire grève si elles ne sont pas payées. Abandonné par ses producteurs depuis King of New York ou Bad Lieutenant, Abel Ferrara, tout comme cet alter ego fictif, s'est toujours accroché à son propre style et n'a rien concédé aux standards hollywoodiens, au point de perdre sa notoriété si chèrement acquise. Aidé de ses deux mentors successifs, William Friedkin, qui lui avait permis de tourner L'Ange de la Vengeance, puis Michael Mann, qui l'a ensuite poussé vers le polar urbain, Ferrara semble, après les années 90, s'être perdu dans les expérimentations cinématographiques. Le gérant, ringard mais sûr de lui, joué par Willem Dafoe, est une manière pour Ferrara de faire son bilan, en particulier à travers la scène finale qui consiste en un long monologue durant lequel Ray explique à tous ses employés qu'il est la seule raison de ses échecs. Avec ce personnage viscéralement accro au jeu qui ruine sa vie et son entreprise à cause de sa dépendance, le réalisateur revient sur ses propres addictions passées, addictions auxquelles certains de ses collaborateurs, notamment la scénariste Zoe Lund, n'ont pas survécu. Alors en dehors de ce transfert cinématographique qui peut intéresser et émouvoir si l'on connaît un peu la carrière du réalisateur, le film n'a que peu d'intérêt. Tourné uniquement en huis clos, il consiste en un enchaînement de petites scénettes mal écrites et sans inspiration. On pensait se retrouver dans une comédie des mœurs, un prisme qui reflèterait toute l'humanité à travers quelques danseuses et un club miteux à la façon de l'Apollonide, mais on assiste plutôt à une séance d'impro entre acteurs fatigués où chacun tenterait de parler plus fort que l'autre sans qu'une seule phrase, un tant soit peu drôle, sorte du lot. On sent le réalisateur un peu perturbé par son sujet. Et hormis les plans de seins et de fesses qui rythment le film à hauteur de 1 toutes les 7 secondes environ, vous ne verrez jamais le visage des actrices, contrairement au personnage central masculin qui, en tant que prolongement de l'ego de l'auteur, a droit à un peu plus d'égards et d'attention. Impossible donc de s'attacher aux personnages caricaturaux à souhait et peu fouillés. On comprend vite que les deux arguments féminins du film, Lou Doyon et Asia Argento, sont simplement venus tourner une scène et sont repartis aussi rapidement. On aurait pu espérer que Ferrara leur offre un rôle fort et complexe, comme il avait pu le faire avec Juliette Binoche, qui interprétait Marie-Madeleine dans son film Marie, ou avec Béatrice Dalle, qui l'a fait jouer face à Harvey Keitel dans Blackout en 97. D'autant plus qu'il avait déjà fait tourner Asia Argento dans le réussi New Rose Hotel en 98, en l'intégrant au duo mythique formé par Christopher Walken et Willem Dafoe. I said I love you for forever and a day. And then you last kiss, let the night you walk away. You know. Voilà, c'est un extrait où on entendait Asia Argento qui chantait devant Christopher Walken dans New Rose Hotel. Alors, grand amateur de clubs de striptease, Ferrara, qui avait quand même intitulé son tout premier film « Les neuf vies d'une chatte humide », a voulu rendre hommage à ses yeux, à ses lieux, qui font pour lui le sel de la nuit. Mais le virage vers la comédie peine à être amorcé, visiblement pas dans son élément. Ferrara ne trouve pas le ton juste, le dialogue percutant, la situation qui fera rire, et il parvient même, c'est à comble, à rendre la chair triste. On espère en effet que le chef opérateur, qui avait quand même 20 stripteaseuses sous la main et qui est parvenu à foirer l'image en faisant ressortir tous leurs boutons et leurs bourrelets, ne retrouvera pas de travail après un tel gaspillage. Considéré comme le réalisateur new-yorkais par excellence, Ferrara privilégie ici les espaces confinés baignant dans une musique d'ascenseur, aseptisant étrangement sa mise en scène, lui qui avait si bien su filmer la ville dans New York 2h du matin ou The Addiction. Okay, I'm gonna go this way. Le seul travail intéressant sur l'image dans Go Go Tale sera la multiplication des points de vue et la mise en abîme, la caméra principale étant souvent relayée par les images des caméras de surveillance du club. En définitive, cette dernière tentative cinématographique est un ratage. Ces trois derniers films, Chelsea on the Rock, Napoli Napoli et Mulberry Scent, n'ont pas été distribués et ne le seront sans doute jamais. Mais Ferrara nous prépare un retour apparemment tonitruant avec 4h44, c'est le titre provisoire, un film catastrophe sur la fin du monde et on se souvient que ça avait plutôt bien réussi à Lars von Trier. Et puis Abel Ferrara reviendra à son sujet de prédilection, les adductions en tout genre, avec un film inspiré de l'affaire DSK et de son addiction supposée au sexe, un projet cinématographique qui a déjà fait beaucoup parler de lui, puisqu'il devrait réunir à l'écran Gérard Depardieu et Isabelle Adjani. Bon, certes, on les avait déjà vus ensemble dans Mammouth de Gustave Kervern, mais bon, là ça sera pas la même chose puisqu'ils joueront les épouses Strauss-Kahn. Donc conclusion, n'allez pas voir Go-Go Tales, attendez plutôt son prochain film ou revoyez les anciens. Et puis je vous laisse avec un extrait de Bad Lieutenant justement.
Tu es catholique ? Oui, je suis catholique. Ça m'a tué cette merde.
Mais t'es quoi toi, assistante sociale ? T'es un dealer, non ? Alors deal ta marchandise, c'est comme ça que tu fais ton business ?
Ça va pas la tête, t'es malade ou quoi? Tu crois pas que je vais laisser ce merdeux empocher mon fric?
Empocher ton fric? Ce gars-là, il va faire sauter ta baraque devant toi, avec ta famille dedans.
Bad Lieutenant, effectivement, un des grands succès hein, quand même d'Abel Ferrara, avec un policier complètement addict, voilà. Et c'est Werner Herzog qui avait fait un remake. Hein,
oui, la version qui se passe à Nouvelle-Orléans avec Nicolas Cage et Eva Mendes, qui était pas mal aussi d'ailleurs.
Qui était pas mal.
Assez réussi.
Voilà, mais justement la lumière n'était pas du tout la même, hein, parce non. Que Bad Lieutenant c'est assez sombre, voilà. Bon, et celui d'Herzog était un peu plus lumineux finalement. Merci beaucoup, on va faire une courte pause avec Wax Taylor qui avait repris un des dialogues de Nos funérailles d'Abel Ferrara. C'était le moment où Vincent Gallo faisait son speech et ça rend plutôt bien. On se retrouve après.
Being dictatorial materialist. That's how we move forward together. If every worker of the world would unite together, side by side for freedom, we would
for humanity.
Bennett was at one time or another criminal, an outlaw. And that's what they don't want you to understand, because then you will no longer be a slave to their greedy, dying capitalist machine. You will no longer be a replaceable part in their machine. You will have control of your lives. You will have control of your work. You will have control of your ideas.
Time, let the people rule. Time, let the people rule.
Talent du DJ et compositeur Wax Taylor, qui avait repris ce speech dans Nos funérailles d'Abel Ferrara.
Cinérama sur Divergence FM.
Le but de ce cours, c'est de former les prêtres ainsi que les laïcs à la présence diabolique dans la société moderne. S'il s'agit de possession, alors tout d'abord il faut s'assurer que la maladie mentale est hors de cause. La schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive. Le cours est conçu pour explorer toutes ces données.
Il est revenu, le bon temps du film qui ne coûte rien et qui rapporte beaucoup, avec Devil Inside de William Brett Bell, un film qui, le soir de sa première projection aux États-Unis à minuit, a déjà rapporté le double de ce qu'il a coûté, soit 2 millions de dollars. Alors autant dire que la sortie internationale, c'est du bonus, et il se pourrait que Devil Inside rapporte davantage en quelques semaines qu'Intouchable en plusieurs mois. Alors s'il a autant de succès, ça n'est pas forcément dû à sa qualité cinématographique, ça non, mais au buzz créé sur internet dû à son thème, l'exorcisme. Même si on n'a rien fait de mieux que L'Exorciste, sorti en 1974, il n'empêche que les studios tirent régulièrement les grosses ficelles de l'expulsion de démons, une pratique autorisée par Jésus lui-même. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, nous dit-il dans l'évangile de Matthieu. Alors guérir les malades, on a donné avec le bon Dr Ross et la série Urgence par exemple. Ressusciter les morts, disons-le nettement, le genre du zombie a eu son âge d'or. Et il n'y a guère que la purification du lépreux qui n'est pas encore inspirée Hollywood. Mais si Manu, notre esthète du cinéma bis, était là, il nous trouverait sans doute une bonne poignée de films qui mettent en scène des hommes et femmes en lambeaux. Alors le film de démons a connu son apothéose avec la franchise Paranormal Activity, produite par la Paramount. Les trois segments ont attiré le spectateur avide de sensations de frousse. Petit budget, casting famélique sans aucune star, tournage en vidéo, la recette fonctionne bien. C'est pourquoi on retrouve encore la Paramount derrière ce Devil Inside. Le scénario est limpide, on ne cherche pas à vous donner la migraine. Un soir de 89, la police reçoit un appel d'une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir sauvagement assassiné trois personnes. 20 ans plus tard, sa fille Isabella cherche à comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Elle se rend donc en Italie à l'hôpital San Trino pour psychopathe où Maria est enfermée pour savoir si sa mère est seulement déséquilibrée ou possédée par le diable. Alors pour soigner la démente, Isabella fait appel à deux jeunes exorcistes qui utilisent des méthodes particulières mêlant la science et la religion. Grâce à leur fine analyse, dilatement de pupilles ouvrant une page directe dans le Guinness des records, enregistrement vidéo montrant la malade avec une force digne d'un gorille, et enregistrement audio où l'on entend des dialectes inconnus dans les régions tempérées, et surtout quatre voix superposées, eh bien nos deux experts en déduisent qu'elle est vraiment possédée. Et le spectateur en déduit aussitôt que la Sécurité sociale a eu bon dos de rembourser pendant 20 ans un traitement à une femme qui n'a besoin finalement que d'un exorcisme pour aller mieux. Il va donc y avoir un exorcisme, puis quelques autres, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour ne pas spoiler à outrance. Tendez l'oreille.
Ma mère a assassiné trois personnes.
La police est avisée.
Elle a commis ces meurtres au cours d'un exorcisme. Un exorcisme pratiqué sur elle. L'église catholique a été impliquée, et on a transféré ma mère à l'hôpital psychiatrique San Trino à Rome. Alors me voilà. On en vient à se demander, c'est dans mes gènes ? Je vais perdre la boule un jour.
Quelques précautions. Si elle devient trop agitée, il y a un signal d'alarme au mur.
Maria, je suis ta fille.
Relis les entailles.
Maman.
Ah !
vous voulez vraiment aider votre mère, vous devez mieux comprendre ce qu'est l'exorcisme.
Vous suggérez quoi?
Il faut que vous envoyiez un vrai. Où est-elle?
On a été obligé de l'installer en bas, au sous-sol.
J'ai repéré quatre voix sur l'enregistrement.
Ça veut dire quoi?
Possession diabolique multiple.
Je vous en prie, aidez ma mère.
Ça ne correspond à aucune forme de possession que j'ai déjà vue. Je suis désolé, Isabella. Je pense...
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
J'en sais rien. Isabella!
Ou la bonne ambiance. Alors, si le scénario est simple, la forme que prend cette fiction de Frousse est celle d'un faux documentaire. Un ami d'Isabella la suit partout où elle va, histoire de documenter son aventure. Alors, on ne voit donc que ce qui est capté par cette caméra, puis celle que placent aussi les deux jeunes exorcistes. Un procédé brillamment utilisé dans Rec ou même Blair Witch. Alors, autant dire que ça remue beaucoup et que ça laisse la possibilité au réalisateur de choisir ses moments de coupe pour nous en mettre plein la vue. Vous filmez par exemple un individu, il s'approche rapidement de la caméra avec des yeux révulsés, vous reculez précipitamment jusqu'à tomber à terre, vous rajoutez un bruit, des cris, des hurlements, vous brassez tout ça et vous faites votre petit effet. Et dans Devil Inside, il y a peu d'effets spéciaux, surtout du maquillage et des astuces ou d'éthique, c'est comme on veut, de mise en scène. Alors là où c'est gênant, c'est que pour peu qu'on fasse attention, et comme il y a quand même du bavardage inutile, on remarque que la réalisation n'arrive pas à tenir le pari du faux documentaire, notamment dans l'approche du son. Tous les sujets du documentaire ont des micro-cravates sans fil, mais même quand ils les enlèvent, on continue à les entendre. Ça, c'est merveilleux. À un moment, le caméraman s'en va une bonne heure. Il revient dans l'appartement où se réunit le quatuor. Et étrangement, tout le monde a encore son micro harnaché. Donc, c'est vraiment pire que le loft. Mais là où ça devient grotesque, c'est quand le caméraman filme la première fois la mère possédée. Alors, si la mère voit bien sa fille, à aucun moment, elle ne semble s'inquiéter de la caméra qui lui tourne autour. Donc, il s'agit sans doute d'un démon qui respecte le tabou du regard caméra. Le réalisateur y est donc allé les mains dans les poches, mais admettons quand même qu'il a su rendre les scènes d'exorcisme comme on les attend, un minimum spectaculaires. Et je dirais que Devil Inside est seulement ça, un film de montage, de trucage, vite fait, bien fait. Un film qui voudrait nous impressionner, mais qui ne parvient pas à créer une ambiance propice vraiment à l'effroi. La faute au scénario indigent, aux personnages qui sont bâclés, et à la mise en scène, donc fatalement absente, sauf donc par ces petits trucs. Il n'y a pas de propos, et on ne pourra pas s'étonner que ce Devil Inside se termine dans la surprise la plus, mais vraiment totale, moment où la salle réalise en poussant un rire gêné qu'elle a été possédée par la machine à fric. Voilà. Devil Inside est tout de même projeté au Gaumont Multiplex et puis au CGR et sans doute dans d'autres cinémas du département. Alors on va quitter le côté faux documentaire pour jouer, chers auditeurs, au blind test. Et on va commencer par quelque chose de facile. Alors Christine, soyez attentive.
Maman, il faut que tu comprennes que je suis pas comme toi. Tout le monde à l'école trouve que je suis bizarre. Et moi, je veux être normale. Je veux être comme mes autres camarades. Je veux profiter de la vie. Il s'appelle Tommy Ross. Il est gentil. C'est un très gentil garçon.
Non.
Il viendrait me chercher à la maison en voiture
non.
Et il me raccompagnera à minuit. J'ai accepté,
non.
Maman.
Non.
Je ne peux plus dire non maintenant. J'ai accepté.
Il est dans ton placard.
Non.
Avec l'enseignement que tu as reçu, tu n'as pas honte.
C'est pas mauvais, maman. Le bien existe sur la terre.
Va faire pénitence et demander à Dieu le pardon de tes fautes.
C'est un gentil garçon, maman. Il te plaira. Je suis sûre qu'il te plaira beaucoup.
Le mal. Les hommes, des bêtes, oui, des bêtes. Après qu'elle ait vu le sang, elle veut le mal. Elle se tortille comme une chienne en chasse, devant des chiens tremblants sur leurs pattes qui viennent la renifler en avant, l'écume dégoulinant des babines. Je sais à quelles horreurs ils se livrent dans leur voiture. Je les ai vus, je t'interdis d'y aller.
C'est trop tard, j'ai promis.
Il n'y a pas de promesse qui tienne, tu resteras ici ou bien nous déménagerons.
Non,
nous déménagerons et tu ne reverras jamais le garçon. Il commence à pleuvoir.
S'il te plaît, maman,
assieds-toi. Fermez les volets.
Maman, laisse les volets tranquilles, je t'en prie, assieds-toi, écoute-moi.
Alors... Alors, je rappelle, pour jouer à ce blind test, il faut trouver un titre de film avec le mot « diable » dedans. C'est une fille qui est quand même... on entend que la mère lui reproche tout un tas de choses. Elle ne peut pas aller au bal.
Mais oui, on aurait dit Carrie.
Oui, c'est Carrie, mais au bal du diable.
Ah oui, ah, oui, une petite astuce là.
Une petite astuce. D'accord. Donc, film de Brian De Palma de 1976, un des modèles du genre. Alors, on passe à un grand classique cette fois-ci du film fantastique, film de 1964, où là, c'est le son qui est important dans ce film. Enfin, il y a aussi la mise en scène qui est assez redoutable.
Go on and come back again until it finds me. On and on until it finds me.
Boum. Voilà, très caractéristique de ce film, réalisé par un grand réalisateur qui a été le monteur d'Orson Welles. Le réalisateur, c'est Robert Wise, et le film, c'est The Haunting, la maison du diable.
D'accord.
Voilà, un film que je recommande, tourné en noir et blanc, et Robert Wise, on a voulu coloriser son film, il a tenu à ce que le film reste noir et blanc. C'est vraiment avec une image expressionniste, film que je recommande. Allez, encore un gros succès.
Et nous ne détectons pas partout la présence de Satan.
Rassurez-vous, moi non plus.
Nous sommes des modernistes. Mais là, nous pensons que vous allez trop loin. À vous entendre, on reviendrait à l'ère médiévale.
Je me veux moderniste aussi, mais pas aveugle. J'ai étudié longuement le dossier de ces meurtriers, surtout celui du jeune garçon de 20 ans qui a tué ses parents et ses quatre frères et sœurs. J'ai suivi son procès aux assises, et il a certifié que des voix lui avaient enjoint d'agir, des voix qu'il entendait chez lui, des voix qui lui ont dit de passer aux actes. En ce qui me concerne, je soutiens les avoir entendues aussi. J'ai senti une présence dans cette maison. J'affirme qu'il y a une présence étrange dans cette maison.
Révérend, un assassin sur deux dit la même chose. Des voix m'ont fait agir.
Alors, il y a eu un crime dans une maison. On l'appelle la maison du diable.
Oui.
C'est Amityville. Amityville, la maison du diable. Film de 1979, gros film de frousse. On va passer à un film cette fois-ci de 2002.
Mais ça fait 50 bandes qu'on a vu personne.
Je suis sûre que tu sais à quoi je pense.
Kenny et Darla.
Tu penses que c'est vrai?
Quoi, qu'ils aient dû chercher la tête de la fille?
Ils n'ont trouvé que la voiture.
Sa tête, ils l'ont jamais retrouvée.
Qu'est-ce qu'il fabrique?
C'est quoi ce bordel? Il a balancé quelque chose.
Enveloppé dans un drap. Tu veux te faire des sensations fortes ou quoi?
Tu m'attends, je vais voir.
Dans les films d'horreur, quand le mec fonce tête baissée dans les bras du tueur, tout le monde trouve ça débile, et ben là c'est pareil. Tu vas rester ici.
Tous les 23 ans au printemps, pendant 23 jours exactement, il revient pour se nourrir.
Se nourrir?
Voilà, donc, c'est une bande-annonce, hein, 2002, c'est entre Duel et Massacre à la tronçonneuse, fort apprécié par le public et les critiques. C'est Jeepers Creepers, le chant du diable, réalisé par Victor Salva.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc, oui, lointain souvenir du lycée, très loin.
Allez, un dernier extrait, mais cette fois-ci on va en 1943, et bien là c'est plus du tout un film avec des possessions et tout ça, enfin quoi que.
C'est les autres qui ont posé votre menu. Alors n'invitez personne à dîner et ne vous mêlez pas de souhaiter la fête des gens. Ah, oh, il ne m'aurait pas offert des gants, lui.
Qui, lui?
Quelqu'un. Il n'a jamais rien offert du tout, d'ailleurs.
Même pas de vous épouser, je parie.
Non, mais enfin c'était un homme, il savait ce qu'il voulait. Et moi aussi, je sais ce que je veux.
Quoi?
Vivre et loin de vous. Lâchez-moi! C'est assez grand pour me faire mal, mais trop petit pour me faire peur.
Trop petit?
Oui, trop petit. Vous ne serez toujours qu'un petit pain dans un petit atelier. Vous mangerez à des petites tables. Vous aimerez les petites femmes dans les petits lits. Et quand vous aurez fini votre petite vie, on vous mettra dans une petite boîte. Au revoir, mon petit.
Voilà, on n'est plus du tout dans le même genre. Hein. Donc, film de 1943, c'est La main du diable de Maurice Tourneur. Voilà.
Bah oui. Je crois qu'on a eu des résultats assez fulgurants.
0-0-0. Bon, de toute façon, on est en retard, on ne commentera pas cette défaite.
Cinérama sur Divergence FM.
Et comme Manu n'est pas là, il a quand même enregistré sa chronique la semaine dernière. On écoute Manu qui va nous parler de Bloody Moon.
Ah,
Your kiss is cold and icy as death.
Bonjour chers auditeurs, je vais vous parler cette fois-ci d'un vrai film bis, voire carrément Z pour les détracteurs du staccanoviste Jess Franco. Immortel réalisateur de l'horrible Docteur Orloff, mais aussi de Trois filles nues dans l'île de Robinson, une de ses innombrables polissonneries. Blood Moon sort chez Uncut Movie, l'éditeur responsable des films les plus gore et trash sur le circuit DVD. Réalisé en 1981, Bloody Moon fut rapidement frappé d'une interdiction totale lors de sa sortie en Angleterre. Jugé trop violent et trop sanglant, ce chef-d'œuvre intemporel vous est présenté dans sa version intégrale contenant toutes les scènes gore qui avaient traumatisé la censure. On ne peut pas dire qu'il s'agit néanmoins d'un classique du genre. Jess Franco, l'homme aux 192 longs métrages, selon IMDb, n'a jamais caché son dédain envers les slashers, considérant les Vendredis 13 et consorts comme des produits sans intérêt. Que fait-il donc derrière un projet comme Lune sanglante, c'est le titre français, qui semble s'apparenter à un pur psycho-killer? Un mystérieux tueur assassine des étudiantes. Évidemment, on soupçonne Miguel, un personnage libidineux et difforme, qui sort d'un institut psychiatrique après avoir violé et tué une jeune femme. Il est protégé par sa sœur, avec qui il entretient des rapports limite incestueux. On retrouve par ailleurs dans ses instants fratricides la patte inimitable de Franco, son utilisation personnelle du décor, son sens du cadrage, son goût pour les détails insolites et son sens inné de la scénographie. Pour le reste, l'auteur de La Comtesse Noire doit se contenter d'un script linéaire. L'intrigue a pour cadre un milieu très ordinaire, c'est une université, à milieu des univers fantasmatiques et surréalistes de ses grands films comme Vampire Lesbos ou Venus in Fur. Une chose est claire, c'est que Franco s'amuse avec les codes les plus éculés du genre, poussant la débilité de certaines situations vues 100 fois ailleurs jusqu'à leur point de rupture. Prendre Lune sanglante au premier degré témoigne de la méconnaissance de l'œuvre déjantée et protéiforme du trublion espagnol. Franco n'a jamais cessé d'expérimenter, chercher, creuser un sillon dans les entrailles du 7e art. Il dissèque le cadavre du cinéma, passe par les effets les plus éculés et cheap pour retrouver une forme de beauté, de singularité. En apparence, Lune sanglante semble éloigné des recherches formelles du cinéaste et surtout de ses thématiques, notamment le vampirisme et l'érotisme saphique. Le film singe avec malice un style US formaté pour mieux le détourner. Sans s'engager dans la voie périlleuse de la parodie, ce petit film d'horreur prend un malin plaisir à malmener le spectateur en se moquant de tous les clichés d'un genre finalement assez pauvre. D'ailleurs, la longue et laborieuse séquence où Angela, l'héroïne, rentre chez elle pour ressortir plus tard après toute une série de fausses frayeurs frise le foutage de gueule le plus jouissif qui soit. Conscient qu'il ne peut pas manipuler à sa guise le spectateur, Franco accepte les règles élémentaires du slasher dans la deuxième partie en livrant quelques scènes gore particulièrement originales. La fameuse scène de décapitation à la scie circulaire vaut le détour, non pas pour son côté crapoteux, mais pour son découpage filmique qui montre à quel point le Franco était doué lorsqu'il en avait envie, ou du moins lorsqu'il jugeait nécessaire de chiader ses plans. Réalisé avec soin, Lune sanglante est un exercice de style goguenard, une œuvre curieuse, pétrie de second degré et étrangement dénuée d'érotisme. Franco devait penser que Vendredi 13 et Halloween ne peuvent par essence tendre à l'érotisme de par leur idéologie puritaine. Les filles, froides et distantes, incarnent les archétypes des étudiantes américaines, jolies poupées asexuées et sans saveur. Elles ne possèdent aucune sensualité. Elles sont que des silhouettes qui passent et qui meurent sur l'écran. On est très loin d'ailleurs des beautés latines telles que Soledad Miranda ou Linda Romay, ces actrices fétiches. L'absurdité des dialogues et de certaines situations ne font qu'en renforcer l'ironie mordante de ce film d'horreur, plus intelligent qu'il n'y paraît au premier abord. Voilà, le DVD qui sort chez Uncut contient en fait la version française, la version anglaise originale avec des sous-titres. Et voilà, donc c'est disponible chez Uncut, je le répète, à 1000 exemplaires uniquement, comme tous les DVD de cet éditeur. Et on le trouve assez facilement sur Internet.
Fear will grip you on this holiday of terror. A dream vacation becomes a nightmare. Bloody Moon, a film you won't soon forget.
Possession si circulaire aujourd'hui.
Ah, ça crie hein, dans Cinérama.
Cinérama est franchement parti du côté du genre. C'était Manu. Vous le retrouverez la semaine prochaine et cette fois-ci, il sera en direct. Peut-être que lui, d'ailleurs, il aurait pu faire un bon score au blind test, hein, oui. J'imagine.
Il y a quelques jours, un signal radio a été émis de je ne sais où. Ces mots ont été envoyés en boucle.
Il faut que tu me sortes ta quéquette d'elle.
Mais c'est pas possible, non.
Salut les bourges, Mamie Nova a des soucis.
T'es Steve Jobs? Est-ce que t'es le milliardaire qui possède Apple? Non? Oh, ok, dans ce cas, t'as pas le droit de porter des New Balance. C'est défendu.
Qu'est-ce que c'est moche?
C'est ça, va te faire niquer, enculé!
You're waiting to fuck my wife?
Vous entendez les mots que vous dites des fois? C'est pas vrai, qui parle comme ça?
Mega upload. Send me a file, mega upload.
Supprimez-les tous jusqu'au dernier.
Voilà, et donc on reprend notre chronique DVD qu'on avait laissée en suspens la semaine dernière. Donc la sortie ce mois-ci également de This Must Be A Place, un film de Paolo Sorrentino, le réalisateur du remarqué Il Divo, qui se tourne cette fois vers les productions américaines, mais toutefois plus Sundance que Hollywood.
You know about the Holocaust?
In general, sort of way.
And your father? Did you know your father?
In general, sort of way.
I am a passenger.
Now I remember you. You sang with Mick Jagger once.
Sean Penn interprète ici une rockstar déchue et livre une performance insupportable pour certains, bluffante pour d'autres, qui est le vrai centre d'intérêt du film, le reste demeurant, comme son précédent film, confus et lent malgré le soin apporté à la mise en scène. Dans un tout autre registre, Beurre sur la ville, une comédie française qui narre l'arrivée d'un abruti incapable à la tête d'un service de police, placé là uniquement pour augmenter le nombre de recrues d'origine maghrébine dans la police française.
Pas un noir, pas un arabe à féliciter, c'était la honte.
Vous allez me mettre de la couleur dans cette promotion.
Enfilez-moi de la couleur et du symbole.
J'élève au grade de lieutenant de police.
Belkacem Khalid.
Hein? Khalid.
Ah! Il ressemble à rien ce bidon là.
On dirait Shrek.
C'est ton père Shrek. Ah!
Vous êtes bien sûr que c'était le plus nul.
Il a toujours tout raté. Sans BEPC, sans code de la route et même sans BCG.
Profitez-en pour le charger de cette histoire du tueur du vendredi.
Police nationale!
C'est une enquête de voisinage, n'ayez pas peur. C'est à propos de votre voisine décapitée.
Cheese!
Non mais écoutez, on travaille là. Je vous rappelle que vous êtes là pour faire joli.
Je vais abréger vos souffrances, donc vous, comme vous pouvez le constater, c'est mal joué, pas drôle, voire douteux. Mais heureusement, c'est un arabe qui réalise, Jamel Ben Salah, l'auteur du chef-d'œuvre Le ciel des oiseaux est ta mère. Sinon, on aurait immédiatement hurlé au racisme, ce qui aurait peut-être été bénéfique d'ailleurs au film, vu le flop mérité qu'il a fait en salle. À la distribution, uniquement de grands acteurs français, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, et plus étrange, Sandrine Kiberlin. Complètement autre chose, Le cochon de Gaza qui a profité lors de sa sortie d'un bouche à oreille totalement mérité.
Une nuit où l'on se perd. Ensemble nous ferons éclore un ciel
qui refermera nos plaies et portera jusqu'à nous
le parfum d'une nouvelle terre.
Alors ?
Un beau thon et trois dorades énormes. Les poissons comme ça, ça court pas les rues.
Et encore des saloperies.
Une comédie douce amère avec un fond social et religieux suffisamment marqué pour basculer dans le politiquement incorrect autour de chaque phrase. La communauté juive, autant que musulmane, en prend pour son grade avec cette histoire improbable d'un pêcheur de Gaza qui retrouve dans ses filets un porc. Bien embêté par cette découverte hautement impure, il va alors s'embarquer dans des situations dignes d'un film burlesque. La fin est un peu naïve mais n'enlève rien au charme du film et si vous l'avez raté en salle, c'est vraiment le moment de le voir. Alors si vous n'aimez pas les guerres de religion, vous pouvez vous rabattre sur deux histoires d'amour. Un amour de jeunesse de Mia Hansen-Love et Un jour de Lon Scherfisch. Mia Hansen-Love se trouve être la femme de Olivier Assayas, avoir reçu le prix de Luc pour son premier film et être érigée, entre autres par les cahiers du cinéma où elle a également écrit, comme la nouvelle réalisatrice à suivre. Un amour de jeunesse est son troisième film. Il a à nouveau reçu les éloges unanimes de la presse et détails à souligner. Il a été tourné dans la région. Autre film, autour du premier amour, le drame Un jour, mais cette fois pas d'ado boutonneux qui se galoche au milieu des oliviers, on est dans la romance à l'américaine et les deux personnages sont forcément glamour, sexy et riches.
Quand on était à l'université, j'étais dingue de toi.
J'étais amoureux de toi, Emma.
Le problème, c'est que je craquais à peu près pour toutes les filles. Je me sentais tout le temps comme un mec qui sortirait juste de prison. Je pouvais pas me retenir.
Tu t'es incrusté à mon anniversaire, tu m'as appelé Julie et tu m'as renversé du vin sur mon chemisier.
Ah ouais.
Ouh là là, deux étudiants amoureux l'un de l'autre mais qui préfèrent rester amis et vont ainsi passer leur vie à éviter la passion qu'ils pourraient vivre. Mais comment cela va-t-il se terminer ? Rien de nouveau, donc des larmes, des sentiments et des remises en question. Si vous êtes toujours seul après la Saint-Valentin, vous pourrez pleurnicher avec vos copines devant ce film en mangeant des Ferrero Rocher. Bon, en réalité, je suis un peu mauvaise langue puisque je n'ai pas vu le film, qui doit malgré tout valoir bien mieux que sa bande-annonce. Puisque la réalisatrice est également celle de Une éducation, l'excellent film qui avait révélé Carey Mulligan et qui avait reçu il y a quelques années une pluie de récompenses. Et puis pour terminer, en février, c'est aussi la sortie de quelques films que nous avons pu chroniquer au cours de ces derniers mois, notamment Drive, La Polonide, largement nommée au César, et Restless de Gus Van Sant. Voilà.
Merci beaucoup Marine. Je parlerai pas de Dos au mur, hein, le thriller sorti la semaine dernière, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas forcément très important.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
On passe tout de suite à l'agenda avec ce soir notamment à 20h05 la projection du film de Mémoire d'ouvrier de Gilles Perret. C'est suivi d'un débat en présence du réalisateur. C'est un film documentaire plutôt bien fichu que je vous recommande. On écoute un petit extrait.
Le paysan et l'ouvrier, la terre et l'usine. C'est deux éléments antagoniques apparemment. Hein. Mais ce paysan-là, il vient dans l'usine avec des savoir-faire agricoles qu'on va utiliser dans l'industrie. J'ai toujours été frappé par le fait qu'il y a une proximité très grande entre fabriquer un Beaufort et fabriquer un lingot d'acier. C'est une question de dosage, une question de température, une question de mélange. Et on est frappé par l'habileté, reconnue par les patrons locaux, de ces paysans à déterminer la qualité d'une pâte d'électrode proche de la détermination d'une pâte de Beaufort.
Voilà, c'est l'histoire du monde ouvrier avec des témoignages d'ouvriers, notamment dans la Savoie. On entend aussi eh bien, des historiens et puis on voit comment ce monde ouvrier a changé. Et là, en l'occurrence, on parlait des paysans qui non seulement travaillaient les champs, mais en plus allaient travailler à l'usine. Enfin voilà, c'était un monde dur, mais enfin, tous ceux qui en tout cas interviennent dans le film disaient que c'était un monde solidaire. Oui. Le 24 février, merci Marine de me laisser travailler. Les vendredis ni mois du film judiciaire proposent la projection du film Z, grand film de Costa Gavras. C'est à 18h30 au Novotel Atria, qui sera suivi d'un débat sur les rapports entre justice et pouvoir avec Elisabeth Guigou, qui est ancienne garde des Sceaux. Le lundi 27 février à 20h au Diagonal, alors il y aura l'avant-première de Indignados de Tony Gatliff. Et le réalisateur sera là et on pourra d'ailleurs faire une interview avec lui, on vous rapportera ses propos. Et puis mardi 28 février, donc c'est Jeu d'été hein, de Rolando Colla, qui sera au Diagonal pour la semaine de cinéma suisse. Et ce sera à 19h50 au cinéma Diagonal. Et on le répète, on vous remercie, Christine Bolliger, d'être passée du côté de Cinérama pour présenter donc, la cinquième semaine de cinéma suisse. On indique le site internet pour retrouver...
Donc c'est www.serrarfilm.com.
Alors que Marine ne pourra décemment pas terminer l'émission, on va se quitter.
Si, tout de suite, juste après.
Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Donc, merci Christine Bolliger d'être passée. Et puis Marine, ta phrase, dis ta phrase.
Voilà, je vais y arriver. Et tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes spéciales cette semaine dans l'espace.
Merci, c'était Cinérama. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.